pour lire un court passage dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14 et 15. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Voilà le titre que je pourrais donner au message de ce soir, c'est « Veiller sur ceux qui ont des besoins spirituels ». Je vais commencer par vous dire que de toutes les églises, celle qui s'est le plus rapprochée de ce que le Seigneur désire, c'est certainement l'église apostolique du premier temps, dont le témoignage se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et particulièrement au verset 42. Il est souligné des choses intéressantes concernant l'esprit qui se manifestait au sein de cette église. En tous les cas, il était dit que les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, dans l'enseignement des apôtres. Et cette église prospérait, et la Bible nous dit que des miracles et des prodiges se réalisaient par les mains des apôtres. Et il y a eu pour autant une grande période de tribulation. Et nous voyons au chapitre 4, par exemple, du livre des Actes des Apôtres, que les chrétiens, en face de cette persécution, se sont tenus dans la prière, ont invoqué le nom du Seigneur avec une telle force que la Bible déclare le lieu dans lequel ils se trouvaient trembla, et une nouvelle fois, ils furent remplis du Saint-Esprit, et la bénédiction de Dieu a reposé sur eux. Il y a eu une réponse formidable de la part du Seigneur et ils ont pu continuer à annoncer le message de l'Évangile avec, je dirais, une grande assurance et avec beaucoup de succès. Cependant, même s'il y avait cette riche bénédiction qui se manifestait au milieu d'eux, la parole de Dieu dit aussi qu'à un moment donné, eh bien, le Seigneur est intervenu pour corriger tous ceux qui étaient dans une situation non conforme à la volonté de Dieu. Et comment cela s'est manifesté? Il suffit de lire le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres et on s'aperçoit que là, deux êtres, en la personne d'Ananias et Saphira, qui vivaient dans la duplicité, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, eh bien, ont reçu un juste jugement de la part de Dieu. Il y avait donc une leçon que cette église a reçue. Et je pense que c'est d'abord en s'appuyant sur ce que le Seigneur Jésus a annoncé dans l'évangile de Matthieu, particulièrement au chapitre 18, comme vous le savez, Jésus a parlé de la discipline dans l'église. Et il a dit, quand il y a quelqu'un qui pêche, le devoir qui est le nôtre, c'est d'aller le voir, de le reprendre en tête à tête. Et Jésus a continué son enseignement en disant, s'il écoute, eh bien, vous avez gagné ce frère. S'il n'écoute pas, tu prends un autre témoin. Tu vas trouver cette personne et si encore une fois la personne se repent et écoute, eh bien on a gagné ce frère. S'il n'écoute pas, Alors la Bible dit très clairement, dis-le à l'Église, et à ce moment-là, il sera considéré comme un païen. Il y a donc une discipline dans l'Église. Il y a quelque chose qui doit être respecté, qui doit être observé. Et c'est la raison pour laquelle, ici, l'apôtre Paul, bien qu'il soit extrêmement reconnaissant à Dieu pour la bénédiction qui repose sur l'église de Thessalonique, car effectivement, dans les chapitres précédents, il a remercié le Seigneur et il a rendu grâce à Dieu pour les progrès que faisaient ces Thessaloniciens dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Mais en même temps, eh bien, il va donner des recommandations. Il établit d'abord ce qu'est le ministère d'un pasteur, et dans tous les chapitres qui précèdent ce que nous avons lu en cette soirée, il parle justement de la consécration de celui qui est à la tête d'une église, de celui qui a la charge d'apporter le conseil de Dieu. Juste quelques versets avant ce que nous avons lu, il est dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Mais en vrai, il parle directement à tous les chrétiens, à tous les membres de cette Église. Et c'est à eux qu'il adresse cette exhortation en disant « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, etc. etc. » Il a fait, je dirais, une classification parmi les brebis de ce troupeau, et il va parler des brebis qui sont capricieuses. Il va parler des brebis qui sont faibles, il va parler des brebis qui manquent de discipline, il va parler des brebis qui sont en danger parce qu'elles ne sont plus obéissantes, celles qui marchent aussi dans le désordre, et il met comme responsabilité sur la personne de ceux qui composent cette Église et qui peuvent se considérer comme forts, d'agir en conséquence pour que tous ceux qui se trouvent dans une situation difficile et dans un besoin spirituel puissent retrouver la vraie communion avec Dieu. Et il nous montre comment cela peut se faire. Alors, je vais prendre ces différents cas. Il y en a 5, nous allons les voir assez rapidement et découvrir comment nous pouvons agir et intervenir auprès de ceux qui, justement, se trouvent dans les situations qui sont désignées. Alors, la première chose, c'est avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors, je dirais que ces brebis-là qui vivent dans le désordre, ce sont des brebis capricieuses. Elles ne veulent pas rentrer dans les rangs. Et le terme qui est utilisé signifie littéralement des personnes qui sont en dehors des rangs ou qui marchent en contresens de toutes les prérogatives qui sont prises dans l'Église, et ils peuvent être qualifiés soit de paresseux, d'indolents, d'apathiques. Mais pourquoi cela? Eh bien, parce que dans une Église, il y a des choses qui doivent être accomplies, qui doivent être réalisées. Par exemple, l'une d'entre elles, c'est de mettre à la disposition de tous les dons que nous avons pu recevoir de la part du Seigneur. Et quelquefois, on s'aperçoit que certaines personnes sont hésitantes, justement par une sorte de paresse spirituelle, ne veulent pas s'engager, ne veulent pas, eh bien, se mettre au service des autres, et ainsi constitue un frein pour les progrès dans la foi de l'Église, des progrès dans la foi de ceux qui sont les membres d'une communauté. Alors, qu'est-ce qu'il recommande aux chrétiens de faire auprès de ces personnes? Eh bien, le terme qui est traduit par « prion », c'est « parakaleo ». Ça nous rappelle « paraclé ». Et ça nous rappelle aussi ceci, c'est que ça veut dire se placer à côté d'eux pour communiquer quelque chose qui va les sortir de leur apathie, leur parler avec tendresse, certainement, avec douceur, pour les amener à obéir à la parole du Seigneur et à certains engagements que le Seigneur nous demande de prendre. Si on ne marche pas tous dans la même direction, alors il va y avoir un problème, il va y avoir une difficulté. Et c'est la raison pour laquelle ici, eh bien, l'apôtre Paul dit, nous vous prions de justement agir avec beaucoup d'affection, certes, mais d'avertir ceux qui vivent de cette manière-là. Bien entendu, le désordre, ça peut aussi se traduire, comme nous le voyons dans un autre passage de la parole de Dieu, par des personnes qui s'imaginent que l'on peut, étant donné que l'on est chrétien, eh bien, vivre d'une manière anormale. Vous savez qu'il a repris certains Thessaloniciens à un moment donné et il leur a montré que lui, personnellement, eh bien, il travaillait de ses propres mains pour pouvoir faire face à la situation dans le domaine matériel. Ça ne veut pas dire que tous les serviteurs de Dieu doivent agir de cette manière-là, mais lui s'est trouvé dans une situation où il a fallu qu'il travaille et pourvoir à ses propres besoins lui-même en travaillant de ses mains. Et nous savons, parce que l'Écriture nous le dit, que tout en servant Dieu, il était faiseur de tentes, et c'est ainsi qu'il a fait face à certaines situations. Et quand il a découvert que dans l'Église, il y avait des personnes qui disaient « bon, ça ne sert à quoi de travailler » et qui, dans le fond, vivaient peut-être même au crochet des autres, alors il les a repris. Vous voyez, ça, c'est une anomalie. Et on est étonné de trouver dans cette Église dont Paul fait par ailleurs des éloges, des personnes qui avaient un tel état d'esprit et se conduisaient de cette manière-là. Alors nous pouvons être sûrs que si dans le fond, dans cette Église qui était au commencement, il y avait de telles choses, comme le cœur de l'homme ne change pas beaucoup, qu'il est toujours le même, nous pouvons trouver aussi cela. Et notre responsabilité, eh bien, c'est d'aider ces personnes-là à prendre la bonne voie, la bonne attitude vis-à-vis du Seigneur, afin que Dieu ne soit pas calomnié par rapport à un comportement qui est anormal et que le Seigneur réprouve. La deuxième catégorie de personnes que Paul mentionne ici, ce sont les brebis qui sont abattues, c'est-à-dire des brebis inquiètes, des brebis qui manquent de foi, des brebis qui manquent de courage, qui manquent d'audace et qui, dans le fond, eh bien, sont toujours un petit peu à l'écart. Paul désigne ce deuxième groupe de brebis ayant des besoins spirituels comme étant ceux qui sont abattus. Ils ont un esprit qui est faible. Le terme qui est ailleurs utilisé, c'est curieux, ça signifie « petites âmes ». Alors que nous, les autres, vivaient dans le désordre, celles-ci, au contraire, sont limitées. Elles ont peur de s'engager dans un service qui pourrait un petit peu les bousculer. Vous voyez, elles veulent bien rester tranquilles et malheureusement, ou plutôt, je dirais heureusement, le Seigneur peut parfois nous appeler à sortir de notre petit espace de sécurité. Est-ce que je me fais bien comprendre là? Des fois, nous voulons bien quelque chose qui est traditionnel, qui, dans le fond, passe comme cela, sans faire de vagues. Et parfois, le Seigneur nous appelle à sortir de notre espace de tranquillité pour affronter certaines choses qui sont un peu plus difficiles, je dirais même à manifester une certaine foi et un certain courage pour aller de l'avant et puis aider aussi les autres à prendre courage dans ce sens-là. Et voyez-vous, les Thessaloniciens connaissaient certaines personnes qui étaient comme cela dans le doute. Et je vois par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 4, regardez comment l'apôtre Paul parle. Il dit « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Voyez, frères et sœurs, certains redoutent les difficultés. Certains redoutent les tribulations. Certains peuvent redouter certaines épreuves qui, inévitablement, seront notre partage quand nous nous engageons à servir le Seigneur courageusement. Il faut nous attendre à ce qu'il y ait des réactions autour de nous, qu'il y ait des réactions vives, des réactions d'incompréhension même parfois. Et les âmes qui sont abattues, les âmes qui manquent de courage, les âmes qui manquent dans le fond de foi à un moment donné, ont besoin du secours de ceux qui sont peut-être plus forts pour les encourager et leur dire « il ne faut pas craindre ». Parce que de toute façon, dans toutes les situations, Dieu est capable de nous assurer une pleine et totale victoire. Regardez comment, par exemple, Paul parlait en ce qui le concerne lui-même. Il disait « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie ». Et notre rôle à ceux qui sentent vraiment ce tremblement dans le cœur des autres, c'est de les encourager et de leur dire qu'il faut prendre courage, parce que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Il y a la troisième catégorie de brebis qui est présentée ici par l'apôtre Paul, et il dit ceci, ce sont les brebis qui ont besoin de discipline parce qu'elles sont faibles. Comprenez bien la raison pour laquelle elles sont faibles. Faibles parce que le malin a mis en eux une certaine sensibilité, et on voit par exemple l'apôtre Paul parler de cela dans son épître aux Romains au chapitre 14 et à partir du verset 1. Certains sont troublés par rapport à certaines choses de leur passé, certains éléments de leur vie passée. Et quelquefois, elles ont l'impression que certaines choses qui apparaissent devant elles maintenant paraissent comme des péchés, alors que cela n'est pas le cas. Je veux m'expliquer. L'apôtre Paul a dû affronter certaines personnes qui, dans le passé, eh bien, servaient des idoles. Et lorsque elles servaient ces idoles, elles étaient obligées de présenter à ces idoles des viandes sacrifiées. Et puis, elles étaient maintenant troublées quand elles voyaient certains chrétiens qui se sentaient libres, vraiment, de manger, par exemple, certaines viandes qui avaient été sacrifiées. Savez-vous pourquoi? Parce que les chrétiens forts, qu'est-ce qu'ils se disent? Les idoles, c'est rien du tout. Ce qui est véritablement digne d'honneur, de gloire, c'est notre Dieu. Mais les idoles elles-mêmes ne sont rien. Donc les païens peuvent donner de l'importance à des idoles et donner aussi de l'importance à cette forme de sacrifice qu'ils accomplissaient. Mais le chrétien est débarrassé de ça. Il sait que ça n'a aucune valeur. Donc certains pouvaient prendre librement cette nourriture, mais les faibles en étaient choqués. Alors, il demande bien sûr à ces forts de ne pas être une pierre d'achoppement, mais en même temps, il faut montrer à ces âmes faibles qu'il y a une autre voie, une liberté chrétienne, une liberté en Jésus-Christ dont il faut pouvoir bénéficier et jouir. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mes chers frères et sœurs, mais parfois, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la grâce de Dieu parce qu'ils sont comme sous un joug que j'appellerais le joug d'une loi. C'est ce que l'on appelle aussi, d'une manière générale, le légalisme. Alors, on leur a dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas se conduire de cette manière, il ne faut pas se conduire de cette autre manière. Écoutez, mes frères et sœurs, vous savez qu'il est écrit dans la Bible, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est la raison pour laquelle, quand nous faisons quelque chose qui est simplement pour plaire aux autres, aux chrétiens qui nous entourent, ou peut-être même parfois aux pasteurs, mais que nous ne faisons pas par conviction personnelle, eh bien, nous sommes dans une voie qui ne peut pas être agréable à Dieu. Vous savez, certains trouvent de la liberté à faire certaines choses qu'ils ne conçoivent pas comme des péchés, mais d'autres peuvent penser que cela est un péché. Et alors, ils sont dans un état de faiblesse continuelle et il faut pouvoir les amener à jouir de la liberté en Christ. Attention, mes frères et sœurs, je me reprends immédiatement pour vous dire, attention, la liberté en Christ ne signifie pas de changer la grâce de Dieu en dissolution. Je vous ai déjà parlé d'autrefois qu'il y a ces deux extrêmes dans l'Église, d'une part les légalistes, d'autre part les laxistes, et malheureusement, le Seigneur ne peut pas approuver ni les uns ni les autres, mais ce qu'il approuve, c'est ce que nous faisons par conviction et par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous et au travers de nous. Car c'est quand Christ fait une chose au travers de nous que nous sommes agréables à Dieu. C'est la raison pour laquelle tous ces faibles-là, qui sont toujours en train de se conduire ou avoir un certain comportement par rapport à ce qu'ils entendent ou voient des autres, eh bien, ils doivent changer de position et nous devons les aider. Je vais vous donner un exemple un peu particulier. J'ai eu la possibilité de partager beaucoup de choses, comme vous le savez, avec mon frère quand il était encore ici en vie. Et je me souviens d'une fois où, dans une certaine région que je ne citerai pas, il faisait des visites. Et alors qu'il faisait ses visites, à un moment donné, se trouvant dans un certain endroit, il a dit, tiens, je pense à ceci, là, pas très loin, il y a une personne qui vient à l'église, une chrétienne, je vais aller la visiter. Il profitait de cette occasion pour librement lui rendre visite ce jour-là. Mais quand il a frappé à la porte et que cette personne s'est rendue compte que c'était le pasteur qui était là, elle a dit, oh, pasteur, vous auriez dû m'avertir parce que si vous m'aviez averti, eh bien, je ne serais pas avec une telle attitude. Voyez-vous, elle était vraiment très, 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 comment on explique cela? Très maquillée. Et mon frère lui a dit, mais sœur, au contraire, c'est comme cela que vous devriez venir. Parce que pourquoi est-ce que vous avez une attitude en dehors de l'Église et dans l'Église, par rapport aux autres, avoir une certaine crainte? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est triste parce que certains adoptent une certaine attitude dans l'Église par rapport au jugement qu'il pourrait avoir de la part des autres. Et c'est cela qui fait de nous des pharisiens, des hypocrites. Nous devons être dans la présence du Seigneur et dans la communion fraternelle telle que nous pouvons nous trouver en dehors de cela, parce que le Seigneur, il est là au milieu de nous ce soir. Mais vous allez repartir et il sera avec vous dans la maison, il sera avec vous dans la voiture. Et en tout lieu où vous serez, le Seigneur sera présent. C'est vous dire qu'il y a donc ici quelque chose qui doit être effacé de notre esprit. Tout ce que nous faisons, je dirais, en cachette, en dissimulation, parce que nous avons peur des autres, eh bien, nous met dans une fausse attitude au sein de l'Église. Et je dirais, ce sont ces personnes-là qui ont besoin, en quelque sorte, d'être aidées. Non pas d'être jugées, mais d'être aidées. Et c'est là notre rôle à chacun d'entre nous. Un rôle de compréhension, un rôle de stimulant dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel. Nous devons être des modèles par notre vie et puis aussi des modèles auprès des autres pour les exhorter et les conduire dans la voie du Seigneur. Il y a ceux qui sont récalcitrants et qui, dans le fond, ont beaucoup de mal à tenir le rythme de l'obéissance. Et évidemment, pour cela, l'apôtre Paul dit « Usez de patience envers tous ». C'est facile pour les bien portants d'être frustrés ou découragés face à certaines brebis qui semblent toujours poser des problèmes. C'est toujours très difficile et je dirais assez désagréable de pouvoir constater que malgré l'enseignement, malgré la formation, malgré certaines expériences déjà accomplies, réalisées, malgré ce que l'on peut entendre au sein d'une église, eh bien, certains ont des attitudes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais Paul ici nous exhorte à avoir de la patience pour eux. Je remarque que le Seigneur Jésus s'est trouvé face à des situations semblables. Par exemple, à un moment donné, vous vous souvenez comment Jésus a manifesté ce qui pourrait être un semblant d'impatience quand il a dit « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Vous vous souvenez hein, de cette expression « Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Et parfois, dans d'autres circonstances, il a dit simplement ceci, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous craint ?» Vous vous souvenez de cette expérience quand Jésus était dans la barque, il y a eu la tempête, et lui, il veillait paisiblement, il s'était plutôt endormi paisiblement dans la barque, et les disciples, en face de la tempête, étaient vraiment dans le doute, dans l'angoisse, dans la crainte, et ils ont réveillé le Seigneur avec une certaine brutalité, et lui ont dit « Enfin, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr ?» Et vous vous rappelez tous ce que Jésus avait dit, « Passons de l'autre bord, de l'autre côté. » Jésus, quand il dit une chose, il l'accomplit. S'ils avaient eu foi en la parole du Seigneur, il n'y aurait pas eu cette crainte. Là, je crois que nous nous reconnaissons tous avec ce manque de foi. Mais il arrive parfois que nous découvrons un doute qui dépasse certaines limites dans le cœur de certains. Et nous pouvons manifester une certaine impatience. Et ici, eh bien, Paul nous exhorte et il dit « Soyez patients envers ceux qui ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous savons que la patience du Seigneur est notre salut. S'il n'y avait pas eu cette patience qui a été pratiqué par le Seigneur à notre égard, où en serions-nous aujourd'hui? Et nous avons besoin de manifester cette même patience auprès de ceux qui nous entourent, afin de pouvoir les aider et les guider sur la voie de l'obéissance au Seigneur, en les encourageant de quelle manière? En leur montrant que l'amour de Dieu est un amour éternel. Et vous savez, certains ont tendance à oublier cela, parce qu'en face de la révélation de leur faiblesse, l'amour du Seigneur semble estompé à leurs yeux. Et nous avons besoin de les édifier et de leur montrer que l'amour de Dieu ne change pas, qu'il est toujours le même, qu'il est prêt à relever celui qui est tombé, qu'il est prêt à secourir celui qui se trouve dans une situation de faiblesse comme ça. Et il faut montrer aussi toutes les promesses positives du Seigneur qui se trouvent mentionnées dans l'Écriture, afin que, justement, la foi qui vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu puisse trouver comme cela, eh bien, un chemin dans leur cœur et qu'ils puissent être renouvelés dans leur être intérieur. Je vais terminer par la dernière catégorie de brebis, celles qui sont méchantes. Ouais, il y a les capricieuses, il y a les faibles, il y a les abattues et il y a les méchantes. Vous allez dire, mais ça c'est possible ça? Dans l'église du Seigneur, il peut y avoir des brebis méchantes? Écoutez, je vais simplement vous lire quelques passages dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ézéchiel, vous notez simplement cela, mais je vais lire pour vous. Au chapitre 34, eh bien, la parole de l'Éternel est adressée à Ézéchiel. Et Dieu lui dit ceci, « Prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » Alors, vous notez bien, ici, Dieu s'adresse par le prophète aux pasteurs, dont je fais aussi partie. Mais un peu plus loin, eh bien, il s'adresse à toutes les brebis. Et il dit ceci, « Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. » Mais un peu plus loin, il est dit aussi ceci, que certaines, eh bien, ont donné des coups de corne aux autres. Les brebis fortes, les brebis grasses, eh bien, ont été également méchantes auprès des brebis faibles. Et il se trouve ici que dans ce passage, Paul dit, et ça, il faut quand même que nous le retenions, un Thessalonicien au chapitre que nous avons lu, au verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Pour les chrétiens, les pires déceptions ne viennent pas de la méchanceté de la part de ceux qui sont en dehors de l'Église et que l'on a l'habitude d'appeler les inconvertis. Et ce qui est le plus douloureux pour les chrétiens, c'est justement la méchanceté qui peut parfois se manifester de la part de ceux qui pourtant partagent la même foi dans le Seigneur et qui sont aussi dans le même lieu où l'on sert le Seigneur ensemble. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Parce qu'une tendance naturelle du cœur humain, c'est de se venger. Et la parole de Dieu elle relève quelque chose que nous connaissons fort bien. Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et nous devons faire confiance à Dieu qui, en son temps, sera également manifesté sa justice en faisant justice à tous ceux qui ont été déçus par le comportement d'autres brebis. En tous les cas, il y a ici un ordre très précis. Il dit « ne rendez pas le mal pour le mal ». Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Je veux dire que nous devons plutôt être portés à rendre le bien pour le mal. Et ça, mes frères et sœurs, nous avons besoin de miracles de Dieu. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de nous aider dans ce domaine-là. Alors vous voyez toutes ces différences entre ce comportement différent, je dirais, de ces brebis, tout cela, c'est ce qui empêche l'œuvre de Dieu de se développer et, je dirais, la croissance de l'Église. Et vous en conviendrez, l'apôtre Paul a une vision de la croissance de l'Église qui est drôlement différente de celle que possèdent certains experts en matière de croissance des églises, quand ils nous présentent toutes sortes de moyens par lesquels les réunions peuvent devenir plus attractives, quand on met en évidence une certaine forme de marketing pour gagner les âmes, quand on essaie de produire certains événements particuliers pour gagner la foule à tout prix. Vous voyez, la vision de la croissance de l'Église que possédait Paul était bien différente. Lui voulait une croissance à l'intérieur, dans la vie intérieure. Quand chacun de ceux qui composent l'Église, eh bien, pratique ce que nous venons de voir ensemble ce soir, eh bien, l'Église, à ce moment-là, peut devenir forte. Et en devenant forte, eh bien, elle deviendra un moyen par lequel même l'évangélisation aura du succès. Parce que les gens, même si on ne se rend pas compte, ils nous observent et ils nous voient vivre. Et vous savez, plus qu'on ne pense, le témoignage, même général, d'une Église est connu à l'extérieur. On se demande comment, n'est-ce pas? Mais le diable est très subtil. Et on est étonné des fois d'apprendre que des païens disent « Ah oui, mais on sait ce qui se passe dans l'Église, on connaît ce qu'il y a eu, on sait quel est le comportement d'un tel, de notre tel. » Ça, c'est terrible. Et c'est cela qui empêche l'Évangile de progresser comme il se doit. Je vais terminer par une note, un peu négative. C'est un témoignage particulier. Un jour, on a demandé à une personne de venir écouter le message de l'Évangile et la personne qui a entendu cette invitation a dit « Mais c'est pas dans cette église où se trouve une telle personne, elle ne vient pas chez vous, là-bas ?» Et celui qui rendait témoignage a dit « Ben oui, bien sûr, elle est membre de notre église. » « Ah ben, si c'est le cas, vu la manière dont elle nous a traités simplement pour le prix du lait, eh bien, je ne viendrai jamais dans l'église. » Vous voyez? Peu de chance, hein? Mais le témoignage que nous avons à rendre, il est très important. Et des fois, nos paroles, elles sont captées par ceux qui sont à l'extérieur et il faut demander au Seigneur la grâce d'être vraiment à ce niveau-là, digne de lui, afin que le nom du Seigneur ne soit pas calomnié à cause de l'attitude de certains chrétiens. Que Dieu nous aide donc à exercer cette forme de discipline que vous avez remarqué, qui est une simple obéissance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer encore un peu de temps dans la prière. Je voudrais vous mettre à